La suite du Grand Journal du Soir, Virginie Salmen avec votre première invitée, Ariane Bonzon, essayiste spécialiste de la Turquie.
Bonsoir Ariane Bonzon.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous ce soir. Avec vous, on va essayer de comprendre l'escalade en Méditerranée depuis quelques jours. Des bateaux turcs escortés par des navires militaires qui vont chercher des gisements de pétrole un peu trop loin, jusque dans les eaux territoriales revendiquées par les Grecs. Athènes qui place sa marine et son armée en état d'alerte. La France qui se porte au secours de la Grèce en envoyant sur place deux rafales et deux bâtiments militaires. Le porte-hélicoptère Tonnerre et la frégate Lafayette. La Turquie accuse aussitôt la France de se comporter en Caïd. Alors pour la situer, cette désormais zone à risque se situe en mer Méditerranée, entre la Grèce et Chypre, au sud de la Turquie. Les pays européens affichent leur inquiétude. D'abord, pour revenir sur le début de cette crise ces derniers jours, Ariane Bonzon, est-ce que le pouvoir turc s'aventure sciemment dans les eaux revendiquées par la Grèce? Est-ce que c'est une provocation de Recep Erdogan? Est-ce qu'il mesure les conséquences?
Alors sciemment, bien entendu, oui. Avant d'être une provocation, ce déploiement naval, ces manœuvres militaires, s'inscrivent, je dirais, dans une stratégie turque plus globale. Celle de projeter la Turquie à l'extérieur de son territoire, en Méditerranée, mais également en Afrique ou en Asie centrale. Alors cette projection, ils ne le font pas seulement avec le soft power, comme ils ont pu le faire dans les années précédentes, mais de façon beaucoup plus agressive, en créant des faits sur le terrain, en mer y compris, et en développant des coopérations et des postures militaires. On le voit bien en Méditerranée, la Turquie veut installer un rapport de force à son profit. Ce qui est en jeu, c'est l'exploitation, comme vous l'avez dit, des gisements de gaz, voire de pétrole dans cette zone. Et la Turquie, qui n'a pas de ressources énergétiques, elle est complètement dépendante de la Russie et de l'Iran, elle veut donc sa part du gâteau, sa part des hydrocarbures qu'on pourrait extraire de la Méditerranée orientale, alors qu'elle n'y a légalement pas droit. Alors elle occupe le terrain, elle procède à ses forages sauvages, pourrait-on presque dire, pour être en position de force quand il y aura négociation, s'il y a négociation.
Oui, ça c'est ce qu'il y a de nouveau pour vous, vraiment, c'est les bateaux militaires qu'on envoie. Là, on n'en est plus du tout au stade des négociations ou de l'approche.
Oui, c'est ça, parce que ce contentieux maritime, il ne date pas de hier. Il y avait eu déjà des problèmes, des échanges de feu en 87 et en 96, par exemple. Ce qui est nouveau, c'est que c'est devenu beaucoup plus conceptualisé, que maintenant il y a toute une partie de l'armée qui en a fait vraiment une théorie, ça s'appelle la patrie bleue. On considère que cette Méditerranée, on y a droit. Enfin, on a droit à un certain nombre de zones. C'est pas, ça ne doit pas être un lac grec.
C'est quoi justement, peut-être que vous pouvez nous expliquer la notion de lac grec, qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que les frontières maritimes et les zones économiques exclusives, c'est-à-dire les zones maritimes dont l'exploitation et l'usage relèvent de la souveraineté d'un ou de plusieurs États, ces zones-là sont définies par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Or, la Turquie n'a pas signé cette convention, elle en a fait un casus belli, parce que si elle signait cette convention, elle considère que toute la mer Égée serait aux mains des Grecs, qui pourraient établir des frontières maritimes à 12 000 de leurs côtes.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'îles grecques.
Voilà, il y a plusieurs milliers d'îles et d'îlots. Donc effectivement, ça transforme la mer Égée en une mer grecque. Et ça, la Turquie n'en veut pas, une fois de plus, parce qu'elle n'aurait pas accès aux éventuelles ressources de gaz, ne pourrait pas forer dans ces zones. Alors, c'est une obsession pour en particulier certains ultranationalistes turcs qui sont dans l'armée et qui ont donc théorisé, qui ont réussi à convaincre au fond le président Erdogan de faire de ce dossier-là un dossier prioritaire, d'où ces manœuvres en mer Égée qui ont lieu actuellement.
Oui, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que ce n'est pas seulement Recep Erdogan, il y a aussi derrière d'autres groupes, voire peut-être l'opinion publique.
Voilà, alors ça c'est très important, vous touchez du doigt une chose extrêmement importante. On a toujours tendance à dire, voilà, c'est Erdogan, l'islamiste, etc. Et en fait là, le dessin, c'est un dessin où effectivement, le président Erdogan, qui a effectivement une idéologie islamiste, s'est allié, non seulement sur ce problème de la Méditerranée, bon c'est pas le sujet, mais il s'est allié sur d'autres sujets, il a conclu une alliance il y a à peu près 5 ans, à peu près au moment de la tentative de coup d'État, avec l'establishment ultranationaliste anti-Ouest, anti-Occidental, anti-OTAN, plus proche de la Russie, plus proche de l'Asie. Ce sont souvent des durs, hein, qui étaient d'ailleurs ses ennemis autrefois. Et donc, ils se sont alliés, et ceux-là sont effectivement très en position vraiment combative, j'allais dire, sur cette affaire de la Méditerranée.
D'accord. Maintenant, on va voir un peu la position de la France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'intérêt d'Emmanuel Macron à intervenir et quel est le risque pour la France d'une dégradation supplémentaire des relations avec la Turquie ?
Cette position de française, là aussi, elle s'inscrit dans une continuité. Hein. On se souvient de ce qu'avait dit le président français fin 2019 en disant que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Enfin, je ne sais plus exactement.
Oui, absolument, c'était ça.
Et il l'avait dit encore une fois, déjà à propos d'un contentieux qu'il avait avec les Turcs qui avaient pris position dans le nord de la Syrie contre les alliés kurdes de la France et de l'OTAN et de l'Occident. Hein. Et là, cette fois-ci, au fond, le président Macron ne veut pas, disons, laisser faire comme il a laissé faire en Syrie à la fin 2019. Il considère qu'il ne faut pas laisser de champ libre aux visées expansionnistes turques. Tout en disant aussi qu'il faut négocier, hein. Il fait un peu la même chose que le président Erdogan. Cela dit, c'est évidemment les Turcs qui ont commencé. Hein. L'offensive, elle vient d'abord des Turcs. Mais sa réponse s'inscrit d'une certaine manière de façon assez symétrique. Il fait déployer des navires militaires. Il cherche aussi à établir un rapport de force sur les terrains avant de négocier. C'est une technique très classique en diplomatie. On déploie, on montre ses forces, on montre ses cartes. Le seul problème, c'est que si la Grèce applaudit, et c'est vraiment, j'étais en Grèce, là justement j'ai mené un certain nombre d'interviews, Macron est adoré, c'est vraiment l'ami, il a tout compris, il a compris ce qui se passe, disent les Grecs. Simplement, il n'est pas vraiment épaulé ni par l'OTAN, ni par l'Union européenne. Or, c'est bien cela qui fait le jeu des Turcs. C'est cette incurie européenne et ce désintérêt de Trump pour cette affaire-là.
Là, voilà, on agit au nom de la France cette fois-ci et plus au nom ni de l'OTAN ni de la communauté européenne, l'Union européenne.
On agit au nom de la France, mais on aimerait, parce qu'il y a un nouveau discours du président Macron qui est en train de s'affiner, qu'on entend, qu'on voit venir là depuis quelque temps, qui est effectivement de se positionner non seulement en leader européen, mais de dénoncer l'islam politique pris au sens large. Et dans ce camp de l'islam politique, il met évidemment Erdogan.
Une dernière question. Donc le président turc Recep Erdogan parle de harcèlement ces jours-ci de son navire de recherche qui cherche donc des gisements de pétrole ou de gaz. Il menace de représailles si les Grecs l'approchent de trop près. Est-ce que dans la situation là actuelle, ça peut le ton peut monter un peu ou est-ce qu'on aboutira forcément à des négociations?
Bon, on ne sait jamais parce qu'il est quand même assez imprévisible. Et puis alors, le président Erdogan, c'est quelqu'un, il faut absolument écouter ce qu'il dit. Beaucoup de gens pensent qu'il fait des tas de, il y a beaucoup de rhétorique, etc. Mais enfin, il y a un certain nombre de choses qu'il a dites par le passé dont on pensait qu'il ne les ferait pas et il les a faites. Hein. Donc, attention. Cela dit, je pense que juste pour l'instant, c'est Trump qui est aux États-Unis. Il y a ses élections en novembre et même sa marge de manœuvre est assez réduite.
D'accord, donc on reste vigilant alors.
Voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Ariane Bonzon, d'avoir répondu à nos questions en direct sur l'antenne d'Europe 1. J'en profite pour rappeler à ceux qui veulent aller plus loin que vous êtes l'auteur de Turquie, l'heure de vérité aux éditions Empreinte. Merci beaucoup.
Jusqu'à 20h, votre grand journal du soir avec Virginie Salmen. Dans un instant, on va s'installer confortablement pour une séance lecture. À tout de suite.